Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, vous savez que je vous aime. Jésus lui dit, t'aime. Jésus lui dit, conduis mes agneaux. Jésus lui dit une deuxième fois, Simon dit, oui Seigneur, vous savez que je vous aime. Jésus lui dit, conduis mes brebis. Une troisième fois, Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné de ce que Jésus par trois fois lui demandait s'il l'aimait, et il lui dit, Seigneur, vous savez tout, vous savez bien que je vous aime. Jésus lui dit, conduis mes brebis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous célébrons la fête de Saint-Pédis. Je crois que nous aurions été impardonnables de ne pas le faire cette année, de ne pas la solenniser cette fête cette année, puisque nous trouvons en 2007 au centième anniversaire de l'encyclique Bachendi Dominici Gregis que Saint-Pédis, pape, a écrite contre le modernisme. Il me semble que 100 ans après cette encyclique, si on veut bien la relire et ne pas la laisser prendre la poussière sur les étagères, n'a pas pris une ride. De quoi s'agit-il dans cette condamnation du modernisme? Évidemment, le terme de modernisme peut paraître ambigu, parce que si nous condamnons avec Saint-Pédis le modernisme, nous sommes bien obligés de reconnaître, que cela nous plaise ou non d'ailleurs, que nous sommes modernes, c'est-à-dire que nous sommes les enfants de notre époque, et ceux qui croient pouvoir échapper à leur époque, ceux qui croient pouvoir faire comme s'ils vivaient toujours au Moyen-Âge, sont victimes de leur présomption, et souvent beaucoup plus modernes que ceux qui humblement reconnaissent qu'ils vivent aujourd'hui en 2007. Je crois que pas se représenter l'histoire en noir et blanc, en doré, illuminé et ténébreux. Ça a toujours très mal été, puisque quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et par conséquent, nous ne sommes pas forcément moins bien lotis que d'autres. Je dirais même que la période que nous vivons est exaltante, puisque elle nous a poussé à la résistance, et chacun d'entre vous, vous avez fait ce geste de faire des kilomètres pour venir assister à la messe traditionnelle, c'est un acte de résistance spirituelle, mais c'est un acte qui grandit celui qui le pose. Nous sommes bien entendu des brebis ou des agneaux du troupeau dont nous avons entendu parler tout à l'heure, mais nous ne sommes pas pour autant des moutons de Palurge. Nous ne suivons pas n'importe où le troupeau. De cette histoire de Panurge dans Rabelais, où un mouton s'en va du bateau et tous les autres le suivent, évidemment. Il faut voir ici les troupeaux montés pour peut-être se rendre compte de ce que c'est. Et évidemment, tous plongent dans l'eau. Eh bien, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas du naufrage et nous n'avons pas le réflexe du troupeau à ce point, ce réflexe grégaire. Mais nous avons posé cet acte de résistance spirituelle qui est propre à notre époque et qui fait, je crois, que nous pouvons être fiers de vivre cette époque passionnante et exaltante. Alors, lorsque nous condamnons le modernisme, nous ne condamnons pas une époque. Toutes les époques dans la providence de Dieu ont leur beauté et leur réserve de sainteté. Mais nous condamnons une idéologie religieuse qui a été ainsi nommé par les théologiens romains de la fin du XIXe siècle, et qui consiste tout simplement, cette idéologie, à confondre la foi dans la parole de Dieu, telle que nous l'avons reçue dans l'Évangile, telle que la tradition le porte jusqu'à nous, confondre donc cette là avec une confiance subjective. variété de Cachetan et comment est-ce qu'on peut considérer qu'il est, d'une certaine façon, un précurseur de l'antimodernisme. Vous comprendrez peut-être mieux ainsi l'actualité de l'enseignement de Saint-Pie-X. Cachetan se trouve cardinal, proche du pape, membre de la curie, et il est envoyé en Allemagne pour trouver des sous, pour organiser cette croisade contre les Turcs, qui était beaucoup plus d'actualité que vous ne l'imaginez, puisque les Turcs vont faire une pression continue sur la chrétienté jusqu'au siège de Vienne en 1683. Donc tout ça, nous sommes dans cette période-là. Mais les chrétiens n'ont pas du tout envie de s'unir contre les Turcs pour repousser le danger. Ils ont beaucoup d'autres choses à faire, bien plus importantes, qui les sollicitent immédiatement, régler leurs petits problèmes de rivalité entre princes, entre l'empereur et les princes allemands, entre le roi de France et l'empereur, puisque le roi de France veut, c'est de devenir empereur. Bref, la chrétienté se morcelle dans des conflits internes imbéciles. Lorsque je vous dis que à toutes les époques ça a mal été, ben ça allait très mal à cette époque-là aussi. Cajetan prêche donc un peu dans le désert, en bon prédicateur qu'il est, et il se trouve qu'il est confronté à ce moment avec un individu extraordinairement doué qui s'appelle Martin Luther. Martin Luther a soutenu un certain nombre de thèses contre les indulgences et sur un certain nombre d'autres détails. Le fond de son problème n'était pas là. Le fond de son problème était qu'il confondait la foi chrétienne traditionnelle, cette adhésion fidèle à la parole de Dieu, qu'elle nous plaise ou non, qu'elle nous convienne ou non, parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui la révèle. Luther confondait donc cette foi traditionnelle avec ce qu'il appelait fiducia en latin, fides, fiducia, la foi confiance, la foi qui est un emballement de la subjectivité et qui devait permettre, selon lui, à tout père de famille de lire la Bible en toute sécurité pour dire à sa famille ce qu'elle contenait. Voilà l'idée donc du protestantisme, c'est l'idée d'une subjectivité religieuse. Vous imaginez le père de famille le soir lisant la Bible, tombant d'ailleurs sur toutes sortes de choses, parce que la Bible c'est un livre très compliqué, écrit sur plus de 1000 ans, avec je pense 30 ou 40 auteurs, je n'ai pas compté, avec cet Ancien Testament, ce Nouveau Testament, je sais que c'est difficile de comprendre l'articulation des deux parfois, eh bien, Luther prescrivait, pour échapper à l'autorité de l'Église, c'est cela au fond qui le préoccupait, prescrivait que chacun puisse lire la Bible, aperto libro, et dire ce qui s'y trouve. Autrement dit, que la règle du vrai et du faux devienne non plus le texte, mais le lecteur du texte. Dieu sait qu'il est facile de lire un texte de différentes manières, pour peu que vous ayez des souvenirs scolaires, vous pouvez peut-être vous en souvenir, et un texte comme le texte biblique est particulièrement difficile. Il faut un interprète, une interprétation autorisée, c'est le rôle de l'Église, depuis l'origine, que de dire non seulement le vrai, d'ailleurs, mais surtout le faux, de dire où il ne faut pas s'engager, dans quelle voie il ne faut pas aller. Or, Luther ne pouvait pas supporter cette autorité de l'Église. Et il concevait que le chef de l'Église, alors ça c'est une dimension politique de son message, soit le prince. Pourquoi le prince? Parce que, disait-il, c'est le premier des baptisés. Donc c'est à lui de diriger l'Église dans son pays. Donc, pour les princes allemands, en quête de légitimité face à l'empereur, c'était une très bonne affaire, mais ça a été l'origine, évidemment, de la croissance du mouvement luthérien. Mais, fondamentalement, que reste-t-il aux chrétiens qui font confiance à cette idée que la vérité se trouve dans la lecture subjective de l'Écriture? Petit à petit, presque rien. Regardez le drame du protestantisme dit libéral, et ça dure depuis 2 siècles, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que le protestantisme libéral ? avait à l'armée, où j'étais responsable de l'aumônerie et des contacts œcuméniques, du coup, pasteur qui se disait protestant libéral. Et nous avions des conversations avec un médecin qui se disait fils de libre penseur, autrement dit franc-maçon vraisemblablement. Et c'était lui, en quelque sorte, l'arbitre de notre débat au pasteur et à moi. Et le pasteur, à un moment, dit ben, pour moi, Dieu, c'est une équation mathématique. Vous voyez, pour moi, Dieu, c'est. Pourquoi? Parce que c'est le lecteur qui interprète. Alors, bien entendu, ce n'est pas dans la lettre de la Bible, mais on vit quand même au XXe siècle. C'était au XXe siècle que cela se passait. On vit quand même au XXe siècle, me disait-il, et on ne peut pas concevoir Dieu autrement que comme une équation mathématique. Je me suis alors permis de lui dire, mais monsieur le pasteur, si Dieu est une équation mathématique, pour vous la prière c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous priez une équation mathématique? Est-ce que, comment vous faites? C'est une question très simple. Et il m'a répondu simplement que la prière c'était l'intégration en soi de toutes les forces de l'univers. Alors, lorsque nous nous trouvons, si vous voulez, devant telle évolution, eh bien il faut mettre en cause cette subjectivité de la croyance qui est à l'origine d'une telle déperdition de consistance, d'objectivité dans la foi. Soit nous avons une règle objective qui est celle de l'Église, et l'Église, vous savez, moi je ne suis pas clérical, l'Église doit intervenir le moins possible, mais elle doit tout de même dire ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas croire. Sinon, c'est le désordre, et sinon c'est l'esprit de l'époque qui l'emporte sur la pureté de la foi. Alors le protestantisme aujourd'hui a beaucoup de mal à exister, à subsister. Je vous ai parlé de ce pasteur que j'ai rencontré par hasard, je peux vous en citer un autre, Alain Ouzio, qui, dans un livre intitulé « Dieu, une invention » paru il y a quelques mois, nous explique que oui, pour lui, Dieu est une invention de l'homme. Bon. Et tout cela, bien entendu, dans la plus grande fidélité subjective au texte biblique. Alors, vous comprenez, je crois que Luther, je parle bien de Luther et pas de Calvin, qui est une autre histoire, mais Luther est vraiment l'inventeur de ce que l'on pourrait appeler le modernisme, c'est-à-dire de cette subjectivité religieuse qui refuse toute autorité extérieure, toute norme, toute règle de la foi, et qui finalement s'invente au nom de sa ferveur subjective, au nom de son élan charismatique, sa propre foi aux dimensions de son individu, avec le risque, bien entendu, qu'au fur et à mesure des siècles, cette foi devienne comme peau de chagrin, se rétrécisse et disparaissent. L'exemple de ce protestantisme-là est particulièrement cuisant. Mais si vous prenez les modernistes historiques du début du siècle, vous vous trouvez souvent devant des personnes éminemment recommandables par leur exigence, par leur volonté d'être chrétien, mais qui justement sont piégés au fond par le critère qu'ils mettent en avant, et qui est le critère, alors Saint Pie X dans son encyclique Pacem di Dominici Gregis parle de l'immanence vitale. Qu'est-ce que c'est ce gros mot, immanence vitale? Pour les enfants qui sont ici, l'immanence vitale c'est moi, la subjectivité, ce que je crois, ce que je veux. La foi c'est mon projet, pour moi c'est ça, etc., etc. Vous connaissez tous ça. Et vous voyez que le modernisme est au fond aujourd'hui une hérésie diffuse, atteint un peu chacun, parce qu'il est très difficile de renoncer à son petit ego et de dire, eh bien moi ce qui va me diriger, ce n'est pas l'ego, c'est la règle de la foi telle que l'Église me la propose, ayant reçu la garde des textes sacrés, ayant reçu la garde de l'Écriture, de l'Évangile en particulier. Alors, vous voyez combien, au fond, le modernisme n'est pas vraiment une hérésie nouvelle. Elle est une tentation de l'esprit, qui consiste à prendre sa propre ferveur, son propre élan, sa propre piété, sa fiducia, Luther, pour le Saint-Esprit. Et c'est évidemment très dangereux, parce qu'après, dans la ferveur, vient pas de nous. C'est bien que cette force, nous ne la trouvons pas en nous. La foi, c'est cette grâce de Dieu, c'est cette fidélité à la parole de Dieu qui nous permet l'impossible, même, qui nous permet en tout cas de faire face dans les circonstances difficiles au nom d'un élan qui n'est pas de nous, mais de Dieu. Voilà pourquoi je crois, vous voyez, le modernisme n'est pas seulement une théorie intellectuelle qu'il serait tout à fait facultatif d'étudier, mais véritablement une tentation pour chacun d'entre nous, parce que nous le voulons ou non, nous sommes fils de notre siècle. Vous savez, tous ces gens qui font au pape des leçons de foi chrétienne et qui disent qu'ils ont trois fois plus la foi que lui, sont aussi des gens qui sont animés par la subjectivité et qui ne voient plus que leur subjectivité. Et je crains d'ailleurs que ceux qui vont jusqu'à dire que le pape n'est pas pape parce qu'il n'a pas la foi et juge de la foi du pape soient animés par ce mouvement moderniste et par cette idéologie que soi-disant au départ il dénonce. À force de refuser de voir qu'on est tous des modernes, on finit par être victime du modernisme parce qu'on n'a pas fait attention. Eh bien, chers frères, demandons à Saint Pie X qu'il nous garde dans la foi. Il a eu, vous savez, un courage extrême de publier cette encyclique. Et il a été, à son époque, largement diabolisé, en particulier par toutes les élites françaises qui considéraient ce pape comme rétrograde, comme fou, de s'attaquer ainsi à cette idéologie de la subjectivité religieuse. Cela ne l'a pas empêché de parler, et je crois sa parole a retardé la crise de l'Église de plusieurs dizaines d'années.